Les médias francophones publics.
Radio France, RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. L'hommage à un grand écrivain belge disparu cette semaine. Un voyage au Cambodge, un détour par le Maroc et un groupe néo-calédonien. Voici le sommaire de cette édition. François Veillargan est parti subitement lundi, membre de l'Académie française. Depuis 10 ans seulement, il avait obtenu le prix Renaudot et le prix Goncourt en France, un doublé rare. Nous lui rendrons hommage avec l'humour qui le caractérisait à la fin de l'émission, avec un entretien décalé et une anecdote racontée par Hélène Carrère-Dancos. C'est un témoignage fort sur la vie et sur notre capacité à changer nos règles et conventions par amour pour les autres. Tina Kieffer, ancienne vedette de la télé et de la presse féminine, publie un récit sur son aventure au Cambodge pour créer une école et surtout adopter une fillette rencontrée un jour comme une évidence. Nous irons aussi en Nouvelle-Calédonie grâce à un groupe, le groupe Kaori, qui fait escale dans notre studio. Bonjour Alexis Diawari.
Bonjour.
Bonjour Thierry Folcher. Vous chantez la liberté, la tolérance et la dignité. C'est le principe de cet album qui sortira le 21 juin. C'est un résumé de la Nouvelle-Calédonie, ça ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans l'album, il y a un morceau qui s'intitule « Les hommes vivent debout ».
Oui.
Oui, « Les hommes vivent debout ». C'est tiré des poteaux sculptés qui sont, représentent les hommes. Et oui, bien sûr, c'est tout à fait pertinent.
Bon, vous jouerez un titre acoustique tout à l'heure, une séquence filmée qui sera diffusée dans la version télé de la librairie francophone sur RTS2, RTBF La 3, ICR TV et sur TV5 Monde. Et puis sur notre plateau également, l'écrivain marocain Mahi Binbin qui publie un nouveau roman chez Stock, une fable qui pointe la condition des femmes et les frustrations sexuelles qui détruisent des familles entières au Maroc.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous comme chaque semaine. Pour représenter la France aujourd'hui, c'est Sophie Todescato qui est avec nous depuis Orléans, avec qui on a un petit problème de liaison. On est en train de régler ça. Sophie est libraire dans la librairie Les Temps Modernes. En Belgique, c'est Déborah Damblon de la librairie La Licorne à Bruxelles qui est avec nous, fidèle à la radio comme à la télé désormais. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous ?
Mais très bien.
Ça a l'air. Au Canada, Jérémy Lagniel, lui aussi, nous accompagne avec brio dans la version télé. Il est libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
On va vous retrouver lundi sur ICI Art TV au Canada pour la nouvelle édition de la librairie télé. Merci d'être avec nous. En Suisse, c'est la pétillante Laura Sanchez qui est là. Bonjour Laura.
Mais bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Genève dans la librairie du Boulevard.
Mais oui.
C'est parfait. Merci, vous interviendrez tous les quatre tout au long de cette émission. Bonjour Tina Kieffer.
Bonjour Emmanuel.
Bienvenue dans la librairie francophone. Nous parlerons de votre livre et de votre aventure au Cambodge tout à l'heure. Un témoignage qui va séduire et alerter une grande partie du public, j'en suis convaincu. Mais avant, on commence toujours cette émission par une histoire, une anecdote étonnante. On a pensé à vous, Tina.
Ah, comme c'est gentil. Allez-y. Écoutez, j'ai une idée qui me, une histoire qui me revient. C'était juste après, d'ailleurs, ma rencontre avec le Cambodge. Je pars à Kaboul pour la chaîne de l'espoir. En fait, la chaîne de l'espoir inaugurait l'hôpital de l'enfant et de la mère là-bas. Et donc, Bernadette Chirac organise un voyage dans l'avion présidentiel. Il y avait tous les journalistes qui étaient là. Il y avait les humanitaires. Et donc, j'étais conviée parce que j'avais soutenu cette association. Première partie du voyage, ça va bien. On atterrit dans un aéroport. Je serai infichu de vous redonner le nom parce que vous ne pouvez pas aller directement à Kaboul. C'est trop dangereux. Et là, on nous fait monter dans des espèces d'avions de guerre sans hublot, où vous êtes collé à la carlingue et on vous met des gilets pare-balles. Donc déjà, l'ambiance se refroidit un petit peu. Je me souviens que j'avais Patrick Poivre d'Arvor à mes côtés, qui était peut-être un petit peu plus habitué que moi, mais bon, il n'en voulait pas large. Et ensuite, donc on dit, mais pourquoi des gilets pare-balles? Et on nous explique que c'est parce que on peut nous tirer dessus en arrivant sur Kaboul et qu'en plus, il faut bien se tenir parce que la seule façon d'aller dans, sur l'aéroport de Kaboul, c'est de faire un piqué. Donc voilà, c'était une anecdote peut-être pas très très drôle, mais qui m'a marqué.
Et
voilà.
C'est dans le livre, et Patrick d'ailleurs vous demande si vous avez un fiancé.
Oui, c'était sacré Patrick. Juste avant, il me demandait, tu as un fiancé en ce moment, Tina? Et c'est à ce moment-là où on a mis les gilets pare-balles, et il a complètement oublié l'histoire de fiancé.
Merci pour cette histoire. Tina Kieffer est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Mahi Binbin.
Bon.
Bonjour.
Les auditeurs se souviennent peut-être de notre émission à Essaouira, oui, l'été dernier pour la librairie francophone estivale et cette balade comme ça dans la Médina avec vous. Vous venez de publier Rue du Pardon chez Stock, c'est une rue de Marrakech qui porte très mal son nom dans votre livre.
La rue du Pardon, c'est une rue qui existe vraiment, qui s'appelle Delblafou en arabe, et c'est une rue qui est un ancien lupanar, une rue, c'est un bordel quoi. Et c'est la seule rue à Marrakech où les fenêtres ne donnent pas sur le patio à l'intérieur du riad, mais elles donnent à l'extérieur. En Médina, il n'y a pas de fenêtre qui donne vers l'extérieur. Et là, il y a des fenêtres parce que les demoiselles devaient montrer un peu la marchandise. Mmh. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça.
Ça commence bien, Marie. En fait, c'est pas ça du tout l'histoire de la rue du Pardon dans votre livre, Marie, parce qu'il y a Hayat, l'héroïne, qui est une petite fille malheureuse, car elle ne ressemble pas à ses semblables. Elle est suspecte, en fait, parce qu'elle a la chevelure blonde.
Oui, elle est différente, disons. Oui. Elle est née blonde et naître blond dans un monde où il y a des cheveux bruns et des bouclés, c'est suspect. Alors on accuse sa mère d'avoir fauté peut-être avec des roumis, avec des... Mmh. Et alors la petite Hayat grandit dans cette maison un peu rejetée, avec une certaine violence parce que même le père la soupçonne de ne pas être sa fille et donc il y a des choses terribles qui vont se passer. Mais elle va être fascinée par une diva qu'on appelle Serginia. Mamita, qu'elle appelle Mamita. Oui, oui. Et Serginia, c'est une chira. Alors, qu'est-ce que c'est, les chiras? Les chirates, au Maroc, ce sont des sortes de geishas en terre d'islam. Elles sont chanteuses, oui, danseuses, amantes. Elles rendent heureux le pays entier. Et en même temps, elles sont décriées. Mmh. On se méfie d'elles, les femmes.
Alors, c'est ça que vous dénoncez, Marie Binbin, dans ce livre. Parce que c'est ça, c'est le paradoxe marocain, ça.
C'est ça.
À la fois, il y a des femmes qui participent à toutes les fêtes, les mariages, les circoncisions, enfin, tout ce qu'on fait de festif. On a ces femmes qui sont là, qui se dénudent, les hommes les payent. Ça pose de problème à personne. Sauf que, à la maison, c'est différent, la condition de la femme.
C'est absolument, voilà. Elles sont rejetées, mais en même temps, elles sont craintes parce que elles se baladent de maison en maison, elles savent les choses. Et finalement, ce sont des femmes qui ont presque inventé le féminisme chez nous parce que elles se maquillent, ce qui était impensable il y a 30-40 ans, sortir maquillée dans la rue, où elles mettent des djellabas moulantes en satin. Elles vivent leur féminité, elles bravent un peu toutes ces interdits.
Alors du coup, les femmes dans votre livre, Marie Binbin, sont frustrées, mais les hommes aussi au bout du compte, c'est ça le problème?
Absolument. Ce sont des femmes qu'on dit légères, mais elles ont pris leur art de la haïta. La haïta, c'est un chant venu d'Orient et qui a été mélangé avec les chants berbères. Et ces femmes-là, elles sont un peu la voix du petit peuple. Mmh.
Alors ça va vers le pire quand même dans votre histoire, Marie Binbin, parce que le père d'Hayat, qui est frustré, comme plein d'hommes, il va faire des choses terribles à sa fille.
Alors, chez nous, dans nos pays, j'imagine que ailleurs aussi, on dit que l'inceste n'existe pas chez nous. On peut pas être musulman et incestueux. Alors que cela arrive comme partout ailleurs dans le monde. Et ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a souvent des complicités des mères qui se taisent, qui ont peur, qui ne veulent pas la honte. Et moi, j'avais envie de mettre le doigt un peu sur dire, voilà, nous sommes comme tout le monde. Il nous arrive ce qui arrive à tout le monde. Et il faut qu'on en parle. Il faut surtout qu'on en parle et qu'on le dénonce.
Allez, les libraires, Marie Binbin, c'est l'heure du verdict. Autant avec Le Fou du Roi, votre précédent roman, vous aviez séduit facilement notre équipe parce que il était question de vous, il y avait une histoire autour du roi, voilà. Y a plein de choses comme ça qui séduisaient. Là, ça va être un petit peu plus compliqué, je pense. La Suisse, la France et le Canada, on commence par qui?
La Suisse.
Après mûre réflexion. Avec Laura Sanchez, allons-y à Genève.
Oui, eh bien, moi, j'ai trouvé ce roman très, très dur. Sous le couvert de la fête, de la danse, des femmes qui ondulent, il y a beaucoup de noirceur. Par moments, c'est presque insupportable, en fait. Je trouve aussi que l'apparente liberté des femmes, par exemple Mamita, est un leurre. Les relations entre hommes et femmes sont dures et souvent basées sur des rapports de pouvoir qui sont peu féconds. Et heureusement, heureusement que les toutes dernières phrases du livre laissent passer un peu de lumière, parce que sinon, je n'en aurais pas perçu du tout.
C'est vrai que c'est assez dur parfois. La France, Sophie Todescato, êtes-vous d'accord ?
Alors moi, j'ai craint au début que le roman se cantonnerait juste au pittoresque, à l'atmosphère. Mais il se joue en fait des choses effectivement très sombres dans cette rue du pardon, des choses impardonnables, qui donnent de la tension et de la noirceur au livre. Mais ça donne aussi beaucoup de présence à ce personnage d'Ayat, en qui on peut voir une vraie figure d'héroïne.
Jérémy Laniel au Canada ?
Oui, il y a vraiment quelques moments de grâce dans ce livre, des descriptions majestueuses, mais il y a aussi une rupture narrative très efficace. Mon seul problème, c'est que je trouve qu'on est désiré faire si court, j'ai l'impression qu'on reste un peu sur notre faim, à mon avis. Dès les dernières pages, comme si la volonté de vouloir faire un genre de conte cruel, sombre, ait coupé un peu les ambitions romanesques du livre.
Alors là, les avis partagés, moi j'ai pas trouvé si court que ça ce livre, parce que c'est vrai que c'est assez dur et qu'à un moment on se dit, il faut que ça s'arrête, parce que vos personnages sont tous en prise avec leur conscience, sauf le père d'Ayat, un sale type violeur d'enfants, on l'a dit. Que peut-on traduire de cette fable, Marie Binbin ? Est-ce une façon de critiquer la société marocaine ?
Oui, bien sûr, comme dans tous mes livres, je mets le doigt là où ça ne va pas. Même le fou du roi était très sombre, quelque part.
Oui, mais c'était assez drôle parfois.
Oui, mais c'était mon frère qui a passé 18 ans dans le noir, sous terre. Je veux dire, on ne peut pas aller plus loin.
Non, mais oui. Oui, mais il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que ça.
Non, il n'y avait pas que ça. Mais bon, moi les avis des libraires, je les trouve bien, hein. Je ne trouve pas ça méchant.
Ouais. Où elle va cette société marocaine d'après vous ?
Ben, elle va là où l'amènent les gens qui la gouvernent. Donc nous, on se bat pour la rendre meilleure. On se bat en créant des centres culturels dans les bidonvilles, en apprenant aux gamins à lire, à écrire. Voilà, nous avons cinq centres culturels dans des bidonvilles. Alors nous essayons de changer sur le terrain les choses. Comme on peut.
Et vous existez comment au Maroc?
J'ai pas le temps de penser. Je travaille beaucoup. Je commence à 8h du matin, je finis à minuit. J'écris des romans, je fais de la peinture, je fais des sculptures, je m'occupe des centres. J'ai même pas le temps de
réfléchir.
De réfléchir.
Et de réaliser non plus, alors.
Bon, je travaille. Et puis après, il faut venir parler de son travail.
C'est ça, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie Binbin.
C'est moi qui vous remercie.
Vous allez rester avec nous. Rue du Pardon est paru chez Stock. Dans un instant, le témoignage de Tina Kieffer, qui, avec l'adoption de sa fille au Cambodge, a aussi créé une école. Tiens, justement, pas un centre comme vous, Marie, mais une école, une véritable école qui rassemble des centaines d'enfants et qui a quitté toutes ses fonctions dans les médias pour cette nouvelle vie. Avant cela, voici le groupe Les Innocents dans la librairie francophone. Merci à vous de nous écouter à travers le monde.
Tu aimerais te perdre au pas de la foule, au bras d'une rivière ou d'autres amours, ne plus tenir ce que t'as laissé passer, redevenir comme autrefois plus léger. Elle ne te quitte pas, sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, dans chacun de tes gestes.
Tu aimerais tailler la plaine.
C'était Les Innocents avec Apache.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Guérade.
Tina Kieffer est dans la librairie pour son livre « Une déflagration d'amour » paru chez Robert Laffont. En 2004, Tina, vous allez au Cambodge avec mari et enfant. Vous y êtes d'ailleurs au moment du terrible tsunami qui a dévasté la région. Il y a un passage, vous racontez ça. Et vous visitez un orphelinat. Et alors, dans un coin de cet orphelinat, vous apercevez une petite fille, chétive, et vous allez vers elle. Vous la prenez dans vos bras et elle ne vous quittera plus.
Absolument. Et je ne la quitterai plus non plus, d'une certaine façon. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la seconde où j'ai croisé cet enfant qui pleurait sur un banc, qui était extrêmement triste, malingre. Effectivement, je déjeunais dans cet orphelinat, on était venu apporter des vêtements, donc je l'ai gardée avec moi pendant le déjeuner, elle était accrochée dans mes bras, et en même temps, elle ne voulait pas me regarder. Elle fuyait mon regard, comme si elle avait peur d'être à nouveau trahie. On s'est rendu compte sur place, j'ai dit, mais d'où vient cette petite fille, qu'elle venait d'un orphelinat qui avait fermé, que c'était qu'elle vivait comme un petit chiot, là. Et quand je suis sortie de là, je n'ai eu qu'une idée, c'est de l'emmener avec moi. Ouais. C'était pas possible parce que l'adoption était fermée avec le Cambodge, et toujours fermée.
Entre la France et le Cambodge.
Absolument, ouais. Et d'ailleurs, est toujours fermée. Et cette petite était quand même, elle avait déjà 2 ans et demi, 3 ans, ce qui est moins facile pour faire adopter un enfant. Et donc, on est reparti, j'étais effectivement en famille. Et je n'ai pensé qu'à ça. Mais c'était un point, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que, à cet instant-là, je l'aimais autant, et depuis, ça n'a pas changé, autant que mes 4 enfants.
Elle est toujours avec vous, là.
Et elle est toujours avec moi, bien sûr, elle a 16 ans aujourd'hui.
Il y a un détail qui est très émouvant, lors de cette rencontre, Tina Kieffer. Cette petite Chandara, c'est son prénom, est accompagnée par un petit garçon de 8 ans. Donc bien plus grand qu'elle. Et à chaque fois qu'elle se déplace, il la suit. Et à chaque fois que vous arrivez vers elle, il la pousse délicatement vers vous.
Extraordinaire, extraordinaire. Ce petit garçon venait du même orphelinat qui avait fermé qu'elle. Et je dis, mais qui est ce petit garçon qui la suit partout? Est-ce que c'est son frère? Et on me dit, non, c'est pas son frère, mais il la protège. Et autant lui était un enfant sociable, autant elle, c'était une petite... elle ne regardait pas, elle faisait la tête, etc. Et il la poussait, c'est-à-dire qu'il était prêt à se séparer d'elle pour qu'elle ait une chance.
Ouais, c'est ça.
J'ai appris, je me suis renseignée sur ce petit garçon qu'il a été adopté en Italie. Et quand je suis retournée chercher cet enfant avec un visa médical, j'avais très très peur que le petit garçon reste sur le carreau.
Et, oui,
et il
n'était
plus là, il était parti avec des Italiens.
Et vous avez des nouvelles de lui? Parce que je me suis posé la question tout au long du livre.
C'est
ce qui m'a le plus touché dans votre ouvrage.
C'est marrant
parce
que Théa, alias Chandara, m'en a parlé encore il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, parce qu'elle a des flashbacks. Et puis on a des photos. Mais le problème, bon, c'est un peu difficile parce qu'il y a une histoire de secret. On ne donne pas forcément le nom des parents, etc. C'est un peu compliqué.
Il va falloir le retrouver quand même.
Mais j'aimerais bien surtout qu'à défaut d'avoir retrouvé la famille de cet enfant qui est venu d'une autre planète, parce qu'on ne sait rien d'elle. On ne connaîtra jamais sa date de naissance. C'est vrai que ce petit frère d'adoption, ce grand frère d'adoption, c'était très fort.
Alors ça va très vite dans votre livre et dans votre histoire aussi. Vous partez au Cambodge pour l'adopter et dans l'avion, vous écoutez une musique québécoise que tous les Québécois connaissent. C'est Charles Bois avec Lindbergh.
Ah, Lindbergh, j'adore.
Au sud du sud, au soleil, le blanc, les palmiers et les cocotiers glacés. Chez Farsi, et toujours la Sophie qui venait de partir.
Eastern Western, c'est ce que vous citez d'ailleurs dans le livre. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette chanson-là? Pourquoi vous l'écoutez en boucle dans l'avion?
C'est vrai que j'écoute en boucle parce qu'elle a quelque chose à la fois de joyeux, de dramatique, de lumineux et de nostalgique. J'adore sa voix, j'adore la poésie de Charles Bois. Et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup vécu avec la musique et j'ai beaucoup, quand je vais au Cambodge, j'y vais souvent. C'est des voyages qui durent au moins 18 heures, donc je suis beaucoup avec mes écouteurs. Donc c'est assez important pour moi.
Bon, vous vous lancez dans cette procédure complexe, donc tout d'abord en la ramenant en France avec un visa de 6 mois et en la gardant au-delà de ce visa, ce que la justice va vous reprocher. Et avec un humour grinçant, Tina Kieffer, vous imaginez aller chercher Chandara dans sa chambre et lui dire, on va te ramener au Cambodge, du coup, parce qu'on peut pas te garder, dans ton orphelinat, on te déposera et promis, on reviendra te chercher d'ici 3 ans, le temps de la procédure. Vous dites, c'est hallucinant.
C'est en fait ce qu'on me demandait de faire. On me disait, mais attendez, pourquoi cette petite, au terme de son visa médical, vous ne l'avez pas ramenée au Cambodge? J'ai dit, d'abord, vous savez très bien qu'elle a dû se fermer avec le Cambodge. Donc, et puis vous pensez que maintenant qu'elle vit ici, qu'elle a retrouvé cette petite tribu, parce que j'avais déjà 4 enfants, où elle s'est adaptée, mais la vitesse de la lumière, c'est ce que je raconte. C'était une petite triste qui ne parlait même pas le cambodgien, qui était, et elle est devenue un véritable, un enfant très très gai, très joyeux. Et je me suis vraiment mise en colère. Ils m'ont même mis un avis défavorable. Voilà, mon avocate me donnait des grands coups de pied sous la table à chaque fois qu'on y allait en me disant « Tina, je vous en supplie, taisez-vous. »
Parce qu'on va encore... Vous ne vous privez pas de parler, hein, Tina Kieffer, depuis toujours. Hein.
Non, mais je n'aime pas être révoltée, j'aime pas ce qui n'est pas juste. Je m'étais beaucoup battue déjà. Il y a trop de problèmes avec l'adoption en France. On est trop sur les liens du sang, vous voyez. C'est sûr que ça ne s'est pas très bien passé, mais bon, en s'accrochant, on y est arrivé.
Vous y êtes arrivé. On va voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de votre livre, Tina Kieffer, avec la Belgique et Déborah Damblon. Qu'en pensez-vous, Déborah ?
Eh bien, je trouve, Emmanuel, que étrangement, la maternité, c'est pas un sujet qui est si souvent abordé en littérature. Les maternités même, hein, j'ai envie de dire, après avoir lu votre livre, Madame Kieffer. Alors, j'ai beaucoup aimé et j'ai été touchée par toute cette réflexion sur le fait d'être mère, sur à quoi ça tient d'être mère. Alors, le reste du récit, j'ai envie de dire, pourquoi pas, bien sûr, c'est une jolie histoire, c'est attachant, mais bon, voilà, c'en est une parmi d'autres. Pour moi, elle manque un tout petit peu d'universalité pour me transporter tout à fait.
Ouais, c'est personnel, mais c'est normal, elle raconte son histoire. C'est normal. Sophie Todescato en France, êtes-vous d'accord ?
J'ai trouvé que c'est un livre qui donnait un peu le tournis dans la mesure où l'adoption de cet enfant déclenche vraiment une avalanche de projets qui sont tous intéressants, c'est pas la question. Mais en raconter toutes les péripéties vous oblige à passer vite, à rester très factuel. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent mère ou qu'on le devient ? En quoi en retour l'enfant aussi vous adopte ? Sur ces questions, par exemple, je trouve que le livre reste un peu à la surface des choses.
Tina Kieffer.
Écoutez, j'ai l'impression quand même d'avoir été vraiment... pour moi, c'est un livre sur la puissance de l'amour maternel. D'ailleurs, c'est la phrase que j'ai mise au début en exergue. Parle de l'amour maternel. J'ai essayé de m'interroger, de comprendre moi-même pourquoi j'avais cette déflagration d'amour. C'est vrai que je n'ai pas la réponse. Donc, je parle beaucoup de ce rapport à mes enfants, des rapports aux enfants que j'ai de façon depuis toujours. Il y a un rapport à l'enfance que j'essaie d'expliquer par des anecdotes et des choses dans mon enfance qui m'ont marqué, qui m'ont révolté par rapport à ce que subissent ces enfants. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est très personnel. À l'époque, vous êtes la reine de la presse féminine, directrice de Marie Claire, qui avec le magazine Elle sont des références absolues en France pour la presse. On vous a connue à la télévision sur TF1 notamment pour des émissions à succès. Et un jour, vous décidez que vous allez tout plaquer pour aller vivre au Cambodge. Et ce qui vous décide, alors au-delà de l'adoption de cette école, c'est l'image médiatique. Vous dites des choses très justes sur l'image médiatique. Vous dites que tout est faussé, que tout est lisse, que les attachés de presse, les connaissances, les relations au boulot et tout ça finalement, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut faire ailleurs.
Par rapport surtout aux relations qu'on tisse une fois qu'on est parti dans ce type d'engagement, où on est tout le temps dans le vrai face aux gens. Que ça soit au niveau de la levée de fonds, vous voyez bien si la personne en face, elle vous accompagne ou si elle se sauve, que ça soit au niveau de la famille cambodgienne qui a de gros problèmes, vous parliez d'inceste, il y a beaucoup d'alcoolisme, il y a beaucoup de drogue, donc on est au cœur de comme ça de problématiques, donc on est toujours au cœur du réel et au cœur de l'humain. Et moi qui venais de la presse. Alors, c'est vrai que quand même, Marie Claire est un journal, on va dire, quand même un peu engagé. C'est pas par hasard non plus que j'y étais, que j'avais fait DS avant.
Avec beaucoup de reportages
Les femmes du monde. Tout à fait, sur la cause des enfants, sur la cause des femmes. Mais c'est vrai qu'ils avaient une frustration au bout d'un moment d'être dans la presse féminine où on ne vous parle que d'annonceurs, où vous voyez qu'il y a de plus en plus de pages de shopping pour citer les marques des annonceurs, au détriment des reportages que vous avez envie de publier. Moi, il y a un moment, je n'en pouvais plus. Et comme j'étais prise par cette école qui me demandait beaucoup de temps et que j'en étais épuisée parce que je faisais à la fois Marie-Claire et à la fois mon école, et je cachais le travail de mon école
Vous impliquez Marie-Claire, parce que vous avez lancé une grande opération.
Oui, qui m'a permis qu'on sorte le premier bâtiment.
La Rose, une fameuse rose qui a été vendue un peu partout. Ça a duré des années,
La
Rose, avec des personnalités. Tous les médias se sont engagés en France et vous avez réussi à monter cette école.
Si j'avais pas été à la tête d'un journal comme celui-là, j'aurais jamais pu monter aussi rapidement une école d'une telle envergure. C'est vrai que j'ai utilisé un réseau, j'ai utilisé ce qui me restait un peu de notoriété de mon passé de télé. Tout ça, j'ai tout réuni, mais j'étais obsessionnelle. Je voulais y arriver.
Mais pourquoi vous la montez cette école, Tina Kieffer ? Parce que vous dites à un moment, j'adopte un seul enfant et c'est pas assez ?
Ouais. Il y avait un truc, c'était très très ambigu ma relation. Cette petite, je savais qu'elle allait être heureuse, je l'ai vue tout de suite, quoi. Je veux dire, c'était vraiment une déflagration d'amour, mais aussi une métamorphose totale de cet enfant. Et je me promenais avec elle dans les rues de Phnom Penh, je voyais les mêmes en haillons, trimballant des nouveau-nés avec la tête brinque-ballante, et je la voyais, elle, qui regardait et qui me tenait la main et qui avait sa petite robe Liberty. Et je me disais, mais voilà, elle est passée de l'autre côté et les autres. Et puis le destin m'a aidée parce que j'ai rencontré une femme qui avait acheté un terrain.
Ah, vous avez de la chance, hein, souvent.
Ah, mais j'ai de la chance,
mais c'est incroyable.
Mais un truc de dingue.
Vous racontez qu'à chaque fois que vous allez voir quelqu'un, y compris le patron de L'Oréal, pour pas le citer, vous tombez à point, en fait. À chaque fois, ça se passe bien avec ces personnes-là. Et vous partez donc du coup au Cambodge. Vous êtes heureuse là-bas au Cambodge?
Ah, j'étais très heureuse.
Ouais.
J'ai vécu d'abord 2 ans.
Ouais.
Donc j'ai amené la Smala, enfin mes 3 derniers enfants, mon nouveau compagnon, son fils aîné, mon ex que j'avais épousé juste avant
d'adopter la façon dont elle raconte ça, mais c'est...
Je suis pour la garde alternée.
Oui.
Et j'ai adoré l'expatriation. De toute façon, c'est une expérience formidable. Le Cambodge, oui. Je décris beaucoup le Cambodge. C'est une claque, ce pays, pour le meilleur et pour le pire.
Vous ne regrettez rien, là?
Oh, mais vous plaisantez.
Les médias, rien?
Ah non, mais jamais. Non, non, non.
Vous allez y retourner. Vous allez y retourner.
Aux médias?
Oui.
Oh non. Bah, vous avez vu ce qui est devenu la presse, en plus, franchement.
Merci. Il y a le reste, hein, vous savez.
Non, malheureusement, c'est plus les reportages d'autrefois.
Et vous découvrez aussi que dans l'humanitaire, les vocations sont parfois troubles.
Oui.
Vous faites une erreur, vous embauchez une directrice pour l'école, une anglaise, je crois.
Tout à fait.
Qui est assez méchante,
oui.
Qui fait la sieste, qui s'occupe de personne.
Pendant la rentrée des classes, faut le faire.
Et qui est assez méchante avec les gamins. Comment vous faites cette erreur-là?
Avec tout le monde. Bah parce que vous savez, moi j'étais tellement investie dans mon truc que d'abord je suis nulle au recrutement, ça faut le savoir, parce que moi il suffit qu'on me parle des enfants, etc. J'adhère et je ne vois rien. Heureusement, je suis entourée de gens qui sont extrêmement doués pour ce genre de truc, et surtout que maintenant on a quand même 300 personnes qui travaillent sur place. Et cette femme... Je lui fais confiance. Vous savez, c'est pas facile de recruter ici pour envoyer à Phnom Penh. En plus, c'était une époque, c'était il y a 14 ans. C'était des terrains de sable pour arriver à cette école. Je me souviens que la veille de la rentrée des classes, inondation, on a dû mettre tous les pupitres sur des tuk-tuks et on se baladait entre les buffles.
Enfin, c'était... on dit tuk-tuk.
Ah, on dit tuk-tuk au Cambodge.
Ah bon? Ah, d'accord.
On dit tuk-tuk au Cambodge.
Pardon.
Enfin, je crois, dans 2 ans, j'ai entendu que ça depuis 14 ans. J'entends ça, mais il y a peut-être qu'on lui dit autrement ailleurs.
Oui.
Et donc, cette femme, au début, je m'en suis pas méfiée, elle. Voilà, elle avait ce qu'il fallait sur le papier.
Ouais.
Effectivement, c'est une folle. Mais il y a des fous, vous savez, il y a des fous partout.
Il y a des fous partout. Merci beaucoup, Tina Kieffer. Merci infiniment.
Merci.
Une déflagration d'amour est parue chez Robert Laffont. Lisez ce livre, c'est un témoignage très intelligent, je trouve. Félicitations. Merci, Tina.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
La chronique des libraires avec les coups de cœur et les coups de gueule. On commence par un coup de gueule, Jérémy Laniel au Canada.
Oui, vous savez, dire dans la librairie francophone que la langue française est magnifique de par sa multitude, ça tombe sous le sens. Mais lorsqu'en tant que libraire, je reçois des nouveautés qui s'intitulent Ghost in Love de Mark Levy, White de Bret Easton Ellis, et j'en sors d'autres, le Selfie, Toffee Darling, Lady Smoke, Stone Burner, Cotton County,
stop.
Tous des livres
arrêtez.
En français, ça me fait hérisser les poils. Je veux dire, il y a des traducteurs magnifiques qui sont capable de changer des titres et nous proposer des versions françaises de ces livres-là. C'est vraiment un fléau qu'on retrouve partout en librairie.
Exact, je suis d'accord avec vous. Merci Jérémy. Un coup de cœur en Suisse, Laura Sanchez, pour un livre de poche.
Oui, moi j'aimerais saluer la sortie poche de L'Infini Livre de Noël Reva qui ressort donc aux éditions Zoé. Dans ce roman, les livres apparaissent au lieu de paraître. Et jamais, au grand jamais, on ne doit les ouvrir. Par contre, on en parle, on commente leur apparence, etc. Donc vous l'aurez compris, dans ce roman d'anticipation satirique et décapant, Noël Reva nous rappelle à quel point les livres donnent du relief au monde et que c'est à chacun d'entre nous de les défendre de la vacuité qui les menace.
Noël Reva, L'Infini Livre, c'est aux éditions Zoé Poche sur ces notes musicales que vous entendez derrière car le groupe Kaori est en train de s'installer pour un titre dans notre studio. Dans quelques instants, ce sera après La France et un coup de cœur, Sophie Todescato.
Non, un coup de gueule, Emmanuel.
Un coup de gueule, pardon.
Un coup de tristesse.
Voilà, bah oui, allons-y.
Un coup de tristesse.
Lâchez-vous.
Une nouvelle qui nous a rendu mélancoliques cette semaine, c'est l'annonce que cette revue qui porte un nom qui nous est cher, la revue Les Temps Modernes, eh bien, elle cesse définitivement de paraître. Alors, c'était une revue absolument historique, patrimoniale, fondée par Sartre et Beauvoir en 45. Et son projet, c'était de donner du grain à moudre pour comprendre le présent. Eh bien, il semble que cette ambition, elle est arrangée au rayon des antiquités. Elle a cessé, semble-t-il, d'attirer un lectorat et la revue s'arrête donc après 700 numéros. Tristesse. Mélancolie.
Oui. Beaucoup de revues littéraires disparaissent chaque année.
Beaucoup de revues tout court, oui.
Et de revues tout court. Vous avez raison de le souligner. Merci Sophie. On termine avec un coup de cœur cette fois. Je ne me trompe pas, Déborah Damblon.
Vous ne vous trompez pas, Emmanuel. Un coup de cœur pour une histoire qui commence très très simplement, puisque c'est Sonia qui cherche Alfred. Et puis elle le cherche, et sur le chemin, elle croise des drôles d'oiseaux qui ont des curieux accents. Et là, finalement, elle va trouver Alfred. Il est au pied du mur de la guerre. Et en haut du mur, eh ben, il y a des fils de fer barbelés. Alors il y a très très peu de mots, il y a peu de lignes et il y a énormément de contenu. Et Catherine Pineur arrive à toucher à l'essentiel. Je vous laisse découvrir la fin, je vous laisse la partager à l'infini, surtout en ces temps de résultats d'élection.
Stella Alfred aux éditions L'École des loisirs. Merci beaucoup Déborah. À suivre notre hommage à François Veillargans avec un entretien désopilant et une anecdote à l'Académie française racontée par Hélène Carrère-Dancos. Avant cela donc, le groupe Kaori qui est dans notre studio pour un titre acoustique. Il vient de Nouvelle-Calédonie, ils sont installés, ils sont trois avec deux guitares, un harmonica, de beaux chapeaux d'ailleurs, c'est parfait. Les caméras sont en place pour filmer cette séquence qui sera diffusée dans la librairie francophone version télé fin juin début juillet. Kaori.
Apporte-moi l'été, jette tes souliers, tu sentiras crisser le sable sous tes pieds, viens vivre la vie à ciel ouvert. À ciel ouvert. Amène les poètes, les types un peu fêlés, les peigneurs de comètes, les chiens abandonnés pour vivre la vie. À ciel ouvert. À ciel ouvert. À ciel ouvert, je veux vivre la vie, au bord de la mer, sous le soleil de minuit. De l'instant qui fuit, je veux chasser l'ennui, danser sous la pluie. On a scié les barreaux de la pensée unique, laisser fuir les oiseaux vers l'horizon magique et vivre la vie à ciel ouvert. À ciel ouvert. Au dos de nos guitares, on écrit des poèmes, des mots que le hasard des alizés entraîne au cœur de la vie à ciel ouvert. Ciel ouvert. À ciel ouvert, je veux vivre la vie, au bord de la mer, sous le soleil de minuit. De l'instant qui fuit, je veux chasser l'ennui, danser sous la pluie. Briser les 20 miroirs de nos belles déroutes, fabriquer des victoires pour vivre la vie à ciel ouvert. À ciel ouvert. Je t'invite au présent à la fête qui bouge, dans la coupe d'argent, tempe tes lèvres rouges et bois la vie à ciel ouvert. Et bois la vie à ciel ouvert. Ciel ouvert, je veux vivre la vie, au bord de la mer, sous le soleil de minuit. De l'instant qui fuit, je veux chasser l'ennui, danser sous la pluie.
Kaori dans notre studio avec un ciel ouvert dans une version acoustique. Bravo Kaori, vous retrouverez ce moment filmé dans la librairie francophone télé début juillet sur RTS2, RTBF La 3, ici RTV et sur TV5 Monde. Et la prochaine diffusion télé, c'est lundi sur RTS2 à 22h45 et ici RTV à 21h30 avec Arthur H., Tahar Benjelloun, Marie Desplechin, Zeynab Irached, Blaise Hoffman et Maryse Wolinski. Venez nous rejoindre Thierry Folcher et Alexis Diawari. Ils posent leur guitare avec Damien Tartamella qui était à l'harmonica qu'on salue. Merci beaucoup Alexis, merci Thierry. Vous vous connaissez depuis plus de 30 ans paraît-il. Pourtant quand on vous écoute on a l'impression d'écouter un groupe de jeunes.
Les jeunes. Et là je ne fais rien à l'affaire, le temps fait rien. Ça a été dit avant.
Oui. Alors non, Kaori, c'est un arbre en Nouvelle-Calédonie, presque légendaire, qui peut vivre 1000 ans.
Oui, c'est un arbre qui est endémique au pays et on se sert pour les pirogues et notamment pour les cases, pour construire des cases au pays.
Et alors, le choix de ce nom, ça a une signification particulière, parce que c'est un arbre résistant, c'est un arbre qui passe les époques, qui s'ouvre aussi sur le monde, puisqu'on, si on fait des pirogues avec, on peut voyager.
Exactement, oui, c'est pour partir. Et puis, bon, l'arbre, c'est pour l'enracinement, les racines pour l'enracinement au pays, et ensuite les branches pour l'ouverture vers le monde extérieur. Donc, voilà.
Alexis, vous êtes né à Canala, originaire d'un clan Kanak. Thierry, vous êtes né à Nouméa, et vous avez choisi le français pour votre musique.
C'est une évidence. On est dans une région qui est très fortement anglophone. À peu près 300 000 francophones pour 30 millions d'anglophones. Je crois que le rapport est nettement défavorable dans ce sens. Mais cela dit, le choix du français, nous, il se fait par rapport à la francophonie, par rapport à un espace qui est, je pense, stimulant, motivant, qui est porteur de diversité. Et l'anglais écrase tout. Le français, il va jouer une autre carte.
Ouais, ouais.
Qui nous semble très intéressante. Et nous, notre choix nous paraît tout à fait justifié. On est conforté dans notre choix de jour en jour par les retours qu'on reçoit. Oui.
Comment vit-on en Nouvelle-Calédonie avec les différences d'origine aujourd'hui? Comment ça se passe entre les Caldoches, la population blanche d'origine européenne installée en Nouvelle-Calédonie depuis deux ou trois générations, et les Kanaks, le peuple autochtone?
Ben, ça se passe très bien. Là, je crois qu'on va vers un destin commun. Mais ça, on l'avait déjà avant, parce que l'histoire des Caldoches, en fait, c'est une colonie de bagne, hein, la Calédonie.
Ouais, ouais.
Donc, ils ont connu cette souffrance-là. Nous, les Kanaks, on était aussi, on a eu cette souffrance-là par rapport aux colonisateurs. Donc, c'est de ces souffrances un petit peu en parallèle. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'on soit là tous les deux maintenant.
Oui, c'est ça, vous illustrez.
Tout à fait.
On n'a pas fait
la possibilité de communiquer et de jouer ensemble.
C'était pas notre choix. Oui, comme dit Alexis, en fait, il y a deux tragédies qui sont en miroir. Ça a été d'ailleurs revu en ce sens, le discours ethnologique et sociologique qui, à une certaine époque, était partisan dans un camp ou dans l'autre. Et on a maintenant une région où les points de vue se rejoignent. Et c'est vrai, comme disait Alexis, c'est une colonie pénale. Donc, il y avait besoin de terre. Et ça a provoqué donc cette colonisation d'un type particulier. Et puis, oui, nous sommes très optimistes pour la suite des choses. Le destin commun est une réalité en Nouvelle-Calédonie.
Tina Kiefer, vous êtes déjà allée en Nouvelle-Calédonie?
Non.
Marie Binbin?
Non.
Il va falloir y aller.
Oui, moi j'aimerais bien.
Et d'abord, il va falloir écouter l'album de Kaori, que j'ai sur la table, que je ne trouve plus. Voilà, à ciel ouvert, qui sortira le 21 juin. C'est ça?
Que nous allons vous offrir, d'ailleurs.
Voilà, le 21 juin. Merci d'avoir parlé de cet album en avant-première dans la librairie francophone. On vous souhaite bonne route.
Merci Emmanuel.
Merci à vous. À bientôt.
Au revoir.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
L'écrivain François Vaillergan est mort cette semaine à l'âge de 77 ans, surprenant le monde littéraire. Il avait obtenu à la fois le prix Renaudot pour Démence du boxeur et le prix Goncourt pour Trois jours chez ma mère. Membre de l'Académie française depuis 2009, il avait su se faire remarquer par son flegme décalé et son humour parfois corrosif. Mener un entretien avec François Vaillergan nécessitait de jouer un peu sans trop se laisser impressionner. Se faire remarquer, c'est ce qu'il avait fait lors de son entrée à l'Académie française. Juste avant d'écouter son entretien dans la librairie francophone, voici une savoureuse histoire racontée par la secrétaire perpétuelle de l'Académie, Hélène Carrère-Dancos.
Je vais vous raconter un incident qui va vous montrer qu'à l'Académie a parfois des moments très, je dirais, très folkloriques. Un académicien qui s'appelle François Vaillergans, pour ne pas le nommer, oui. Nouvellement élu, oui. Qui est tout de même
belge,
accoutumier de certaines fantaisies, le jour de sa réception s'est débrouillé pour arriver en retard. Et alors je dis, il s'est débrouillé parce que l'académie a une particularité. C'est la seule académie qui soit comme ça. Elle envoie des voitures à ses académiciens les jours où ils sont en costume pour leur faciliter la vie. Je lui ai envoyé une voiture 2 heures à l'avance en plein Paris, donc il n'y a pas de problème et on a vérifié qu'il n'y avait pas de drame. Bon, la séance solennelle, elle commence à 3 heures précises, pas à 3h01, pas à 3h02, les tambours battent à 3h. Pas de François Vaillergans. Qu'est-ce qu'on fait? Gendarme son me dit épouvanté, il me dit qu'est-ce qu'on fait? Ben je dis on commence. On n'avait jamais vu ça qu'on commence sans le nouvel élu. Bon, c'est Éric Orsenna qui le recevait. Et Éric Orsenna, qui est imperturbable, il commence ce discours de réception tout à fait tranquillement. Et après quelques phrases, venait la phrase, vous voilà monsieur Vaillergans. Et à ce moment-là, François Veillacans, qui avait délibérément décidé de se faire remarquer, ça je suis sûr de ça, rentre. Et alors je dirais que la coupole qui contenait près de 400 invités, c'est un éclat de rire de 400 personnes.
Ah oui.
C'était vraiment... Alors, je dois dire qu'on s'est beaucoup amusé.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Bonjour François Veillacans.
Bonjour.
Vous êtes dans la librairie francophone pour la première fois. Il faut dire que votre précédent roman, « Trois jours chez ma mère », qui obtint le prix Goncourt, remonte à 2005. La sortie de votre nouveau roman, « Royal Roman », c'est donc un événement. Vous avez été élu en 2009 à l'Académie française. Est-ce cette nomination qui a retardé vos publications ?
Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. De toute façon, les dates, on s'en fout un peu des dates. Non, ce qui compte, c'est un livre pareil. Et alors, mettez-vous de vos oignons. Je fais ce que je veux, quand même. Comme si c'était de mes qualités de publier tous les deux ans. Je trouve ça plutôt une honte, dans la plupart des cas.
C'est trop facile.
J'ai dû être traumatisé, sans doute, à 13, 14 ans. J'ai lu une phrase de Mallarmé, que je connais encore par cœur, un demi-siècle plus tard, donc ça a dû me marquer. Et quand même une phrase un peu snob, hein, je vous préviens, hein, mais je vous la sors quand même. Mallarmé déclarait « Un grand écrivain se remarque au nombre de pages qu'il ne publie pas. » Oui. Ça m'a visiblement marqué.
Alors en tout cas, vous nous surprenez, François Veillacans, car avec ce roman, vous déroulez une histoire très simple. Ce ne sont pas les histoires les plus simples qui sont le plus faciles à raconter, dit-on. Oui. Mais cette histoire d'amour entre un homme mûr et une femme beaucoup plus jeune, on la connaît déjà. La souffrance qui en découle, je dirais qu'on peut aussi la connaître. Pourtant, on réfléchit avec vous et vous tenez le lecteur comme ça. Est-ce que vos romans sont des prétextes pour explorer la vie ? Est-ce que les thèmes abordés sont plus importants que les histoires ?
Vous n'avez pas le dos de la cuillère pour vos questions. Pourquoi on écrit un roman ? C'est pas tellement pour raconter une histoire, c'est pour donner des sensations au lecteur, évidemment. C'est pour donner de la lecture au lecteur, si je peux me permettre un tel truisme. Parce que si vous résumez le livre en disant c'est l'histoire d'un homme un peu âgé qui tombe amoureux d'une fille un peu plus jeune, j'aurais jamais écrit ce roman. C'est sans intérêt. Alors, ça, c'est la mode du pitch. Alors, je suis aussi très anti-pitch.
Attendez, on va aller en profondeur. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour situer un peu au début. Mais je
rétablis le coup que c'est pas ça du tout. Et je pense d'ailleurs que c'est un roman impossible à résumer. Donc, je suis assez content d'être du bon côté de la barrière, c'est du côté de l'auteur.
Ça, c'est pas faux, je vous l'accorde. Alors, on va quand même rentrer dans le personnage. Daniel Flamme, qui est écrivain, il va se faire embaucher par une grande entreprise de papier. Il est payé pour faire l'éloge du papier, un travail qui est alimentaire pour lui et qui lui permet de voyager, d'écrire et surtout de faire des rencontres féminines. Vous m'arrêtez hein, quand ça ne vous plaît pas. Est-ce que la femme fait partie de l'aventure ? Est-ce qu'elle fait partie du voyage, comme il le dit à un moment ?
Ah mais la femme, alors je me souviens que quand j'ai rencontré Valérie Giscard d'Estaing, membre de l'Académie française, au moment où j'ai fait quelques visites, qui sont d'ailleurs absolument délicieuses, alors tout à coup, je me trouve, bon, il a publié ce qu'on appelle des romans, et je me trouve en train de tout à coup, tout à trac, je lui dis, dans ton un peu doctoral pour montrer que j'étais pas n'importe qui, je lui dis, vous savez, la femme a partie liée avec le roman. Et alors il me répond tac au tac, vous pourriez développer. Mais moi, j'aime pas les romans où il y a pas de femme, voilà. Donc il y a peu de romans sans femme. Hein.
Il y en a.
Il y en a, mais peu. Mais comme les films, aussi, j'ai moins 12 hommes en colère que les hommes préfèrent les blondes. Voyez.
Vous ne répondez pas à ma question, François.
C'est quoi la question ?
La question, c'est est-ce que la femme fait partie de l'aventure, fait partie du voyage ? Pour votre personnage ou pour vous, comme
quel
vous
voyage ? Je veux dire, si on voyage.
Quand on se déplace, oui, c'est ça.
Il y a déjà des hôtesses de l'air, déjà.
C'est horrible ce que vous dites.
C'est pour ne pas répondre.
Oui, vous ne voulez pas répondre.
Non, c'est pas ça, mais ça tombe sous le sens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui il voyage pas pour ça, parfois il voyage aussi pour voyager.
Bon, je traduis la question, François. Est-ce qu'il est un peu misogyne ?
Ben, je pense qu'il est un peu, oui. Alors, c'était intéressant d'avoir un personnage misogyne dans un roman qui ne l'est pas. Et c'est un auteur qui ne l'est pas du tout. J'ai pas passé ma vie à ne pas parler d'hommes misogynes. La littérature est pleine de héros masculins qui se conduisent mal avec les femmes. Heureusement qu'on a des femmes dans les romans, donc on peut rattraper le coup. Même les héros de Stendhal, je suis pas sûr qu'ils soient. On aime les lire, mais moi, on préfère les femmes quand même. Mm. Et là, dans mon roman, il y a quand même deux, trois femmes que je vous conseille vivement
de rencontrer.
De rencontrer, oui.
Nathalie, pour la Suisse, justement, vous avez un commentaire autour des relations de ce personnage.
Oui, parce que j'ai trouvé la lecture de cette royale romance plaisante et agréable, mais moi j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu d'éléments accrocheurs. Et peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai eu l'impression que ces femmes étaient toutes interchangeables et que la difficulté principale de ce Capitaine Flamme était de ne pas savoir résister au moindre charme féminin.
Vous connaissez Capitaine Flamme, François Veillacans ?
Oui, très bien, oui, c'était une vieille bande dessinée japonaise.
Un dessin animé.
Ah, oui. Ça commence. Oui, je connais ça. Flamme avec un seul M, là.
C'est ça, exact, oui.
Oui. Oui, ça fait partie de la culture jeune, là, en ce moment. Mm.
Bon, à Montréal, en tout cas, il rencontre une Justine, il vit la passion, il racontera au lecteur cette histoire d'amour qui finit tragiquement, on le sait dès le début du livre, et il dit au tout début, même quand la mémoire vous rend heureux, elle vous rend triste. Sans les souvenirs, vivrait-on un peu mieux, François Veillargance?
Mais le problème du souvenir, c'est ce qui est le plus difficile à oublier, si je peux me permettre. Tous les grands textes des moines de toutes les religions disent que le pire, c'est de renoncer aux souvenirs. On peut vivre tout seul dans une cellule, on peut ne pas manger, on peut... Et les souvenirs sont très compliqués à extirper. Donc on est fait de ça.
Et pour être écrivain, il faut remplir une valise de souvenirs pour pouvoir déballer un jour.
On travaille avec la mémoire quand même. C'est un instrument de travail. Moi, j'ai une grande mémoire, mais c'est peut-être pour ça que j'écris, parce que là, comme ça, je sais pas si un peintre par exemple, a besoin d'autant de mémoire qu'un écrivain. Pas sûr.
Bon, Déborah, pour la Belgique, vous voulez bien sûr intervenir et parler à François Veillargance.
Mais bien sûr. Emmanuel, vous me connaissez maintenant, moi j'aime bien les histoires un peu baroques, les relations compliquées, celles où il y a des failles, des fragilités et des différences, comme entre Daniel et Justine. Mais évidemment ici, c'était le point de vue d'un homme. Et vous savez que je suis curieuse et que j'aime bien être dans vos têtes, messieurs. Mais malgré tout, je me suis quand même un peu égarée dans les méandres des pensées de Daniel. Je l'ai trouvé parfois touchant, mais j'ai aussi eu beaucoup envie de le secouer pour qu'il soit un peu plus dans sa vie.
François Veillargance.
Madame la mère supérieure, vous avez tout à fait raison. mais ce que je viens de dire, là, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire un homme parfait. Hein. Je sais qu'il agace un peu, et moi-même, il m'agaçait, mais tout ça était, de mon point de vue de scénariste, je dirais, et dans la construction du roman, c'était pour mettre en valeur Justine. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Tout est fait. Le livre est à genoux devant cette femme. Et alors, il fallait que le type soit un peu désagréable, parce que du coup, on prend encore plus le parti de Justine. Et sinon, on tombait dans de la guimauve où tout le monde il était beau et tout le monde il était gentil. Et à la fin, quand il renonce à cette Justine pour tomber amoureux fou d'une autre femme, on n'est pas content. C'est fait
c'est
pour.
C'est vrai, ouais, c'est vrai.
On lui en veut. C'est vrai, on a envie de le secouer, de lui dire reste avec Justine, c'est elle la chance de ta vie. Mais donc, on pense à Justine. Tout ça est fait pour ça.
Et surtout, on fait une belle balade, François. On parle beaucoup de Montréal dans ce livre. On sillonne la ville avec vous. Alors, quand on connaît Montréal, on a beaucoup de points de repère, mais vous racontez aussi un peu la culture locale. Et vous citez un livre très important, un best-seller, Saturne et la mélancolie, coécrit par le Canadien Raymond Klibanski, qui traite du bonheur d'être triste. Est-ce que votre personnage trouve une forme d'apaisement dans la tristesse?
Ça, j'en sais rien. Je pense qu'il va très mal à la fin, non?
Je crois, oui.
Il ferait mieux, il ferait mieux.
On va pas tout raconter, mais il peut s'en sortir, quand même.
Là, on est au-delà de la tristesse, là, on est... Pas dans... On dit qu'il est dépressif, je crois que lui-même le dit, mais en fait... Il y a une notion plus subtile que je pourrais introduire ici, c'est subdépressif. Mmh. Alors, subdépressif, c'est dépressif sans vraiment encore l'être. C'est une notion de la psychiatrie la plus d'avant-garde. Je me suis un peu renseigné là-dessus pour pouvoir briller en société.
Non, mais je cite Klibanski et ce livre-là parce que il est question de la mélancolie. Oui, il est question aussi de l'exploration historique et culturelle des œuvres d'art.
Ça n'a rien de québécois. Hein, tous ces gens-là sont nés en Europe.
Il est mort à Montréal.
Il a fini sa carrière à Montréal.
Et on constate que la mélancolie est souvent la condition du génie littéraire et artistique. Et quand on a fini votre livre, François, avec ce personnage écrivain qui perd l'un des amours de sa vie, on se dit que votre roman est peut-être une illustration de cette théorie et de Saturne et la mélancolie.
C'est possible. C'est une clé que je laisse traîner comme ça, le livre. Est-ce que vous avez été ému par la fin? Moi, ce qui m'intéresse, c'est si on est ému par les dernières lignes. C'est que tout est fait pour arriver à ça.
Oui. Mais je peux pas dire pourquoi.
Oui, oui.
Sinon, je dévoile tout.
Ah, oui.
Au début du roman, François Veillargance, il y a cette question: combien de gens réussit-on à rendre heureux dans une vie? Est-ce une façon pour vous de vous demander si vous avez réussi vous-même à vous rendre heureux?
C'est une façon pour moi de demander à tous mes lecteurs de se poser la question. Comme lecteur, je suis renvoyé à ma propre vie. Toute l'idée du livre, toute l'idée de l'écriture d'un roman, c'est comme de renvoyer le lecteur à lui-même. D'ailleurs, la plupart des lecteurs s'identifient et n'aiment les livres que si on leur parle un petit peu d'eux.
Mais vous pensez que l'intensité du bonheur, elle est tributaire du bien, justement, que l'on fait aux autres? Qu'elle est proportionnelle?
Je pense pas, moi, j'écris. C'est très différent.
Mais je vous demande de penser, là.
Oui, mais je pense à partir de 20h30. Non, mais la question est quoi? C'est une question un peu de catéchisme? Non, c'est quoi,
non pas du tout. Non,
je vais répondre.
Alors, allez-y.
Non, mais j'ai oublié la question.
La question, est-ce que l'intensité de notre bonheur, elle est tributaire ou proportionnelle au bien que l'on fait aux autres.
Sûrement. On est comme content qu'on a fait du bien aux autres, mais c'est dur de faire du bien aux autres. Mon personnage qui est plus cynique que moi, il dit rendre les gens heureux, d'accord, mais ils ne peuvent pas s'en occuper un peu eux-mêmes.
Il n'a pas envie de les rendre heureux, vous. Votre personnage, oui. Il n'a pas envie de les rendre heureux.
Alors là, vous allez réveiller le vieux lacanien que je croyais assoupi en moi, qui va vous dire sur la vie humaine des choses tout à fait désolantes.
Allez-y.
Sur l'égoïsme fondamental de chacun, sur la survie qu'on mène tant qu'on peut, en marchant sur les autres s'il le faut, sans s'en rendre compte. Hein, c'est-à-dire tout le tort que peut faire des comportements, même dans une famille, en croyant faire du bien. Parce que vouloir rendre heureux ou vouloir faire du bien, parfois ça peut être de la catastrophe. Hein. Je ne vais pas vous redire que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais...
En même temps, c'est vous qui posez la question, François.
Non, c'est mon personnage.
Mais c'est vous qui l'écrivez.
Oui. Non, mais je trouvais bien que... Combien de gens réussit-on à rendre heureux dans une vie? On se dit, on se met à faire le compte. C'est-à-dire, c'est une prise de conscience. Il n'y a pas la réponse. J'ai pas la réponse, moi. Oui, c'est moi qui l'écris, je suis d'accord. Pour lester le personnage, enfin pour montrer qu'on a affaire à quelqu'un qui pense.
Mais ça s'arrête là.
Comme disait Lacan, la science ne pense pas. Alors, est-ce que la littérature pense? Ce sont les personnages qui pensent.
Merci beaucoup François Vergance. Merci infiniment. Royal Romance est publié chez Julliard. Une histoire d'amour, mais pas seulement. On se laisse prendre par cette déambulation particulière au cœur de Montréal et de sa culture. François Veillard-Gance, dans la librairie francophone en avril 2012. Son roman Royal Romance est disponible au livre de poche.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le français Thomas Monica.
Nos entre-larmes de nos adhères, notre foi. Arme, cette haine qui régit nos degrés d'origine. Tu as trop de peur en toi. Tu es rose qui te mène aux entre-larmes de nos adhères, notre foi. Je voulais qu'il me parle ces longs voyages en bateau, en Corée, en Corée. Avec mes yeux d'enfant, il me semblait être millénaire. Il avait connu, je crois, l'enfer de la guerre. Il me parlait de la couleur du sable et des dégâts lourds de Biscra. Les dates sur son avant-bras comme des vestiges de prisonniers qu'il ne montrait pas. Ah, cette haine qui régit nos degrés d'origine. Tu as trop de peur en toi. Tu es rose qui te mène aux entre-larmes de nos adhères, notre foi. Ah, cette haine qui régit nos degrés d'origine. Tu as trop de peur en toi. Tu es rose qui te mène aux entre-larmes de nos adhères, notre foi. Ah, cette haine qui régit nos degrés d'origine. Tu as trop de peur en toi. Tu es rose qui te mène aux entre-larmes de nos adhères, notre foi. Ah, cette haine. Ah, 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 cette haine. Ah, cette haine. Ah, 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 cette haine. De d'hiver et lui d'été, comme un glacier de sable une nuit que je t'ai. J'ai tant erré pour enfin me trouver à travers ta diversité. Ah, cette haine qui régit nos degrés d'origine. Tu as trop de peur en toi. Tu es rose qui te mène aux entrelacs de nos ADN d'autrefois.
Thomas Monica avec Aux Entrelacs, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. Merci Tina Kieffer.
Merci.
Merci Marie Binbin. Merci. Merci Kaori. Merci. À très bientôt. À la réalisation, Cyril Pascal avec Mathias Alléon et Loïc Frapsos à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Teucher en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Sylvie Julien et Jacqueline Castonguet avec Elsa Pépin au Canada. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre grand voyage francophone avec une séquence consacrée au festival Étonnant Voyageur. Bonne semaine à vous, bon week-end.